Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Une affaire criminelle très célèbre aujourd'hui, l'affaire Omar Haddad, qui date de 1991, mais qui, presque trois décennies plus tard, reste très passionnelle. Omar Haddad a été condamné en juin 1994 par la cour d'assises de Nice pour le meurtre de Ghislaine Maréchal. Il a bénéficié d'une grâce partielle du président Chirac, mais il reste le meurtrier de Madame Maréchal. Aujourd'hui, il continue de dire qu'il est innocent. Il a rassemblé autour de lui des tas de gens qui pensent qu'il est innocent. Mais depuis 25 ans, rien n'est venu en droit confirmer ce sentiment. On va donc procéder comme ça. Moi, je vais vous raconter dans quel cadre et pour quelles raisons il a été condamné pour meurtre. Et ensuite, je vous donnerai la parole, Maître Novakovic. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes son avocate aujourd'hui et vous nous direz tout à l'heure quelles sont les pistes qui vous permettent de penser aujourd'hui qu'une révision de la condamnation d'Omar Haddad pour meurtre est possible. Ça vous va ?
Tout à fait, absolument, il n'y a pas de souci.
J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Ondelat raconte sur Europe 1. Christophe Ondelat.
Je vous emmène à Mougins, sur la Côte d'Azur, un dimanche de juin 1991, le 23, chez Ghislaine Maréchal, la veuve de l'inventeur des bougies et des phares Maréchal. Vous savez, les bougies dont l'emblème est une tête de chat. En général, Ghislaine Maréchal vit entre la Suisse et Mougins. Et en ce début d'été 1991, elle est là, justement, à Mougins, dans la belle maison qu'elle s'est faite construire, la Chamade. On sait que ce jour-là, le 23 juin 1991, Madame Maréchal reçoit un dernier coup de téléphone un peu avant midi. Oui, Erika. Oui, d'accord, on fait comme ça. Hein, tu viens déjeuner demain midi. N'arrive pas trop tard, hein. 11h30. Ça te va? Ok. Bon, ben à demain. Je te laisse, là, je suis pressé, je sors à peine de ma douche et je vais déjeuner chez des amis. À demain. C'est la dernière fois que quelqu'un entend sa voix. Après, elle ne va pas à ce déjeuner d'anniversaire chez ses amis. Qui s'inquiète, bien sûr, qui l'appelle. Ça sonne dans le vide. Aux alentours de 18h, ils viennent sonner à la Chamade. Pas de réponse. Le lendemain, le lundi 24, la copine Erika, avec qui elle doit déjeuner, arrive comme prévu à 11h30. Elle sonne, elle aussi. Elle appelle. Ghislaine ! Ghislaine ! Pas de réponse. Ça commence à devenir inquiétant. La nouvelle fait vite le tour du pâté de maison et des voisins décident d'appeler la société de sécurité qui assure le gardiennage de la villa. Un vigile arrive. Tiens, la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Les clés pendent à l'intérieur. Et l'alarme n'est pas sur on. Le vigile fait le tour de la villa, le lit est défait. Et ses lunettes sont posées là, mais pas de Ghislaine Maréchal. Et donc de plus en plus inquiets, les voisins appellent les gendarmes. Et ils font eux aussi le tour de la villa. Et puis à un moment, ils avisent une sorte de cave, une buanderie qui sert aussi de local piscine, à laquelle on accède par un escalier extérieur et qui descend jusqu'à une porte métallique. Ils ont récupéré les clés, ils ouvrent, et là, ils essayent de pousser la porte. Elle résiste. Il y a un truc derrière qui empêche de l'ouvrir. Les gendarmes poussent, ils poussent tellement fort qu'ils tordent un peu la porte. Un gendarme parvient à passer un bras. Il y a un truc derrière. Un lit métallique pliant. Il le pousse. La porte résiste encore. Il y a encore un truc qui coince, hein. C'est en bas de la porte. Les gendarmes poussent encore contre la porte. Ils arrivent à la faire bouger de quelques centimètres de plus. Là, un gendarme arrive à passer une jambe et avec le pied, il pousse ce truc qui bloque encore. On dirait un tuyau métallique arc-bouté sur le bas de la porte. Un dernier coup de pied. Et ça y est, La porte est ouverte. Il a fallu 20 minutes. Notez-le, c'est important. 20 minutes pour ouvrir cette fichue porte bloquée de l'intérieur. Les gendarmes entrent dans la chaufferie. Ils allument la lumière. Et là, mon Dieu, Guylaine Marshall, elle est couchée sur le sol, face contre terre. Elle est morte. Elle est en peignoir, il y a du sang. Elle est couverte de plaies. Les gendarmes balayent alors la cave du regard. Et sur une porte qui donne en fait sur la cave à vin, ils aperçoivent une inscription rouge sang. « Omar m'a tué », avec un R à la fin, une faute d'orthographe qui va faire le sel de cette histoire. Et puis juste en face de la porte d'entrée, sur une autre porte, celle de la chaufferie, la même inscription, mais inachevée. « Omar m'a tué », et après, une trace de sang qui descend, comme ça. Quel est le raisonnement à ce moment-là? Avant de mourir, avec son sang, Guylaine Marshall a écrit sur ces deux portes le nom de son assassin. Avant ou après s'être barricadée à l'intérieur, avant de mourir des coups qu'elle a reçus. Logiquement, dans les minutes qui suivent, les gendarmes font le tour des voisins. Et une voisine leur dit
« Ah mais moi j'ai un jardinier qui s'appelle Omar. Omar Radad. Et il travaillait d'ailleurs chez moi dimanche après-midi. Et il travaille aussi chez Madame Marshall. C'est moi qui le lui ai présenté. »
C'est comme ça que ça commence. Et donc, c'est Omar Radad, jardinier, est arrêté le lendemain matin chez ses beaux-parents à Toulon, où il vit aussi avec sa femme, Latifa, et leurs deux enfants. Il est placé en garde à vue, et l'interrogatoire n'est pas facile, il ne parle pas très bien français, il est marocain. Mais ça fait tout de même 6 ans qu'il est en France, hein? Mais les gendarmes disent qu'il n'a pas demandé d'interprète. Au cours de l'interrogatoire, il nie absolument être l'assassin de Guylaine Marshall. Mais à l'issue, il est tout de même inculpé d'homicide volontaire et immédiatement écroué à la maison d'arrêt de Grasse. Vous avez compris la mécanique qui a conduit le juge d'instruction en charge du meurtre de Madame Marshall à inculper Omar Radad malgré ses dénégations. Son prénom est écrit 2 fois sur les lieux du crime. Et comme la cave était fermée de l'intérieur par ce lit métallique qui était poussé contre la porte et par ce tuyau en fer qui bloquait le bas de la porte, on se dit c'est forcément elle qui l'a écrit, en trempant son doigt dans son propre sang. « Omar m'a tué ». Quelqu'un qui aurait voulu faire accuser Omar à sa place en inscrivant son nom sur le mur n'aurait pas pu refermer la porte de l'extérieur avec ce dispositif que les gendarmes ont mis 20 minutes à faire sauter. On y reviendra, c'est tout l'enjeu de cette enquête. Mais sur la base de ce raisonnement, Omar Radad est inculpé. L'autopsie du corps de Guylaine Marshall a lieu 4 jours après la découverte du corps. Les légistes ont compté les coups. Ils en ont compté 5. 5 coups sur la tête donnés avec un chevron, une poutrelle en bois qu'on a retrouvée sur place. Bam, 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 bam. Il faut beaucoup de rage pour faire ça. Sur une femme de 65 ans. Elle a dû se protéger avec les mains parce qu'il y a des traces caractéristiques sur ses mains, notamment une phalange qui est cassée. Mais c'est pas tout. Madame Marshall a aussi reçu des coups de couteau, 10 au thorax et à l'abdomen. Porté, disent les légistes, avec un couteau de 15 à 20 cm à double tranchant, et que d'ailleurs on n'a pas retrouvé. En vérité, elle a été éventrée, et 3 coups de couteau ont traversé son foie. Le légiste n'est pas capable de dire lequel des coups, du chevron ou de couteau, a tué la pauvre Madame Marshall. Disons que c'est l'addition de tous ces coups qui a entraîné la mort. Une dernière chose, l'heure de la mort. D'après le légiste, entre 12h et 14h. Alors, où était Omar Haddad à cette heure-là, entre 12h et 14h? La question lui est bien sûr posée pendant sa garde à vue. Il a travaillé le matin chez la voisine, comme on le savait déjà. Et puis je suis parti à midi, pour rentrer chez moi, au Canet. Par quel moyen? En mobylette. Personne ne l'a vu partir. Personne. Il dit que 5 minutes plus tard, donc vers 12h05, il s'arrête acheter une demi-baguette dans une boulangerie située à Val-de-Mougins, qu'il donne même la description de la boulangère. Il remonte sur sa mobylette et il repart jusqu'à chez lui où il arrive entre 12h15 et 12h20. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai croisé le patron du supermarché d'à côté, dans le hall de l'immeuble. Chez lui, il dit qu'il se prépare un thé, qu'il mange un peu de fromage avec sa demi-baguette, et ensuite il dit qu'il regarde un peu la télé en fumant une cigarette. Je suis parti de chez moi vers 1h20 pour aller travailler. Travailler chez la voisine de Madame Marshall, Madame Pascal. Il dit qu'en chemin, il s'arrête téléphoner à une cabine, vers 1h10. Il appelle sa femme, qui est chez ses parents à Toulon, et qu'il arrive donc chez Madame Pascal vers 13h10. Et donc les gendarmes se mettent à vérifier son emploi du temps. La boulangère du Val-Mougins. Dites-moi, madame, venez. Regardez la personne qui est là dans la voiture de gendarmerie là-dehors. Approchez-vous. Vous le voyez? Il dit que dimanche, vers 12h10, il vous a acheté une demi-baguette. Vous le reconnaissez? Au bout du nom! Ça me dit rien du tout, hein? Quant au gérant du supermarché, il confirme qu'il était chez lui, ce jour-là. Mais il ne se souvient pas du tout avoir croisé Omar Haddad dans le hall. Et de toute façon, il n'était pas seul, il était avec sa femme et des amis. Omar n'a jamais parlé ni de sa femme, ni de ses amis. Et quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux ne se souvient l'avoir vu, alors qu'ils le connaissent tous. En revanche, l'arrêt à la cabine téléphonique est confirmé par un relevé de France Télécom. Quant à sa patronne, Francine Pascal, elle ne croit pas une seconde qu'il soit coupable, mais elle est désolée. Elle ne l'a vu ni partir à midi, ni rentrer après 13h. Sa fille, en revanche, l'a vu. Elle s'est même étonnée qu'il soit là si tôt, car d'habitude, il ne reprend qu'à 1h30. Plus tard dans l'après-midi, le gendre de Madame Pascal raconte qu'il trouve qu'Omar a les traits tirés, qu'il a l'air fatigué. Alors il lui apporte un sandwich et une glace. Alors qu'est-ce qui ressort de ce début d'enquête? Eh bien qu'entre midi et 12h51, qui est l'heure exacte du coup de fil à la cabine, eh bien Omar Haddad n'a pas d'alibi. Il dit qu'il est rentré chez lui, mais personne ne peut le confirmer. Dans ce laps de temps, il a très bien pu tuer Madame Marshall. Étonnamment, le corps de Ghislaine Marshall est assez vite rendu à la famille. Et comme elle avait écrit dans son testament qu'elle voulait être incinérée, eh bien ma foi, on l'incinère. La crémation a lieu le 3 juillet, une semaine après la découverte du corps. Dommage. Entre nous, parce que, à partir de maintenant, il est impossible de revenir sur l'autopsie. À ce moment de l'enquête, les journalistes, gentiment aiguillés par les 3 avocats d'Omar Haddad, commencent à avoir des doutes. Et ils l'écrivent. Alors, prenons-les un par un, ces doutes. La première chose qu'on a du mal à croire, c'est que Madame Marshall, 65 ans, ayant reçu 5 coups de chevron sur la tête et plus de 10 coups de couteau qui l'ont éventré, et trouver l'énergie de ramper jusqu'à la porte d'entrée, d'installer le lit 12 kilos contre la porte et dessous la barre de fer pour barricader, et qu'ensuite elle est à nouveau rampée jusqu'au pied des 2 portes pour écrire en trempant le doigt dans son sang « Omar m'a tué, puis Omar m'a tué », et là, elle meurt. Et donc, on demande à des experts, est-ce que sur le plan physiologique, c'est faisable? Réponse des experts, oui. Elle n'est pas morte sur le coup, elle a pu trouver l'énergie nécessaire. On s'étonne aussi qu'elle ait fait tout ça dans le noir, puisque les gendarmes trouvent la lumière de la cave éteinte quand ils découvrent le corps, et que l'inscription « Omar m'a tué » soit droite, bien droite. Ensuite, on se demande si c'est bien elle qui a écrit ce « Omar m'a tué », parce que il y a un cas de figure où quelqu'un d'autre, le meurtrier qui ne serait pas Omar Haddad, désigne Omar. On missionne donc deux experts en écriture. Entre nous, c'est une science un peu faiblarde. Hein. Et tous les deux, en comparant avec des mots croisés de Madame Marshall, disent que c'est son écriture et que c'est flagrant sur les lettres R et E. Question complémentaire, est-ce qu'on a pu la forcer à écrire « Omar m'a tué » ? Réponse des experts, non. L'écriture est trop fluide. Belle assurance, hein, d'une science molle. Bref. Et puis on en revient à la faute d'orthographe, qui est un autre sujet de doute. Madame Marshall, une femme aussi classe, faire une aussi grosse faute, m'a tué, ER. Eh bien si, on trouve une facture en bas de laquelle elle a écrit « payer ER » parce qu'elle venait de la régler. Vous voulez d'autres raisons de douter de la culpabilité d'Omar Haddad? En voici une autre. On a cherché bien sûr des empreintes d'Omar dans la cave. Des empreintes digitales, sur le chevron, sur la poignée. On n'en a pas trouvé. Aucune. Et on n'a pas non plus trouvé de traces de pas, ni de brins d'herbe. Et pourtant, il est jardinier. Il a passé toute la matinée dans le jardin de la voisine. Il ne rapporte aucun brin d'herbe dans la chaufferie. Cela dit, on regarde les semelles des chaussures qu'il portait. Elles sont lisses. Il n'y a pas non plus, d'ailleurs, de sang sur ses vêtements. Et ils n'ont pas été lavés. On a du mal à le croire, ça. Les gendarmes disent, il n'y a pas eu d'éclaboussure. 5 coups de chevron, plus 10 coups de couteau, et pas une goutte de sang. Réponse des gendarmes, le peignoir a absorbé le sang. En revanche, sur les vêtements d'Omar, il y a un peu de plâtre qui pourrait venir de la cave, mais rien n'est certain. Et puis, il se passe aussi un truc dans l'enquête, une cagade qui fait bondir les avocats d'Omar Haddad. Quand ils rendent leur rapport au juge, les 3 médecins légistes qui ont réalisé l'autopsie se trompent de date. Ils écrivent que la mort date du 24 au lieu du 23. Les avocats d'Omar Haddad poussent des cris d'orfraie. Bon, c'était une erreur, ça ne va pas chercher plus loin. Mais ça fait un peu charlot, hein, disons que ça ne fait pas la pub de cette enquête. Et le mobile, alors? Si c'est Omar Haddad qui tue Ghislaine Marshall, pourquoi? On n'a rien volé dans la villa. Enfin si, son porte-monnaie est vide. Or, Madame Marshall se promenait toujours avec beaucoup de liquide. Ses amis parlent de bifton en vrac dans son sac. Et d'ailleurs, elle avait retiré 5000 francs à la banque 2 jours avant sa mort. Pfiouh, disparu. Omar avait-il besoin d'argent? Ah bah oui, souvent. Il demandait régulièrement des avances à ses différents employeurs. Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'il jouait au casino. Aux machines à sous, à 5 francs. Les croupiers du casino Croisette de Cannes le décrivent comme un gros joueur. Ce qui ouvre la porte à un scénario. Omar Haddad réclame une avance à sa patronne Madame Marshall. Elle refuse. Il s'énerve. Il la tue. Vous avez compris que l'une des clés de cette affaire est cette fichue porte fermée de l'intérieur par le lit et le tuyau métallique qui résiste 20 minutes aux assauts des gendarmes qui veulent l'ouvrir. Si c'est Madame Marshall qui installe ce dispositif de l'intérieur, alors on n'a pas de raison de douter que le nom qui est inscrit 2 fois sur les portes de la cave, Omar, n'est pas le nom de son assassin. En revanche, si quelqu'un d'autre a pu désigner Omar pour se couvrir et refermer la porte en tirant le dispositif de blocage de l'extérieur, alors c'est une autre histoire. Pour vérifier si c'est possible, le juge organise un transport de justice sur place, dans la cave. Et on essaye, On essaye de se placer à l'extérieur, porte fermée, et de tirer par en dessous le lit et la barre métallique. Et l'un des avocats d'Omar Haddad, Maître Baudou, sort triomphant devant les journalistes qui attendent.
Pour nous, la démonstration est faite. L'on veut parfaitement donner l'impression que l'on barricade de l'intérieur la porte de la cave, alors qu'on le fait en sortant de la cave.
Pinocchio, c'est archi faux. Ils ne sont pas arrivés à montrer qu'on pouvait fermer la porte de l'extérieur. Leur système n'a pas résisté 20 minutes. Et on en revient donc au point clé. S'il est impossible de bloquer solidement la porte de l'extérieur, alors c'est forcément Madame Marshall qui a écrit « Omar m'a tué ». Jusque-là, du fond de sa prison, Omar Haddad s'est montré étrangement passif, mou. Il ne crie pas son innocence. Après 2 ans d'instruction, l'enquête est maintenant bouclée. La chambre d'accusation considère qu'il y a assez d'éléments pour renvoyer Omar Haddad devant les assises. Depuis le début, Omar Haddad est défendu par 3 avocats, rien que ça. Mais voilà qu'un nouvel avocat débarque dans la valse, qui va écarter tous les autres jusqu'à devenir le seul avocat d'Omar. Le sulfureux mais très brillant Jacques Vergès. Gratos, bien sûr. Omar n'a pas les moyens de se payer Maître Vergès. Et le procès d'Omar Haddad débute le 24 janvier 1994, 2 ans et demi après le crime, devant la cour d'assises de Nice. Mesdames et messieurs, la cour! Omar Haddad est là, dans le box, avec un joli costume cravate. Il était souriant tout à l'heure devant les caméras qui ont filmé son entrée. Dans le camp d'en face, c'est un ténor du barreau de Paris, Maître Henri Leclerc, le vice-président de la Ligue des droits de l'homme, qu'on ne pourra pas accuser de racisme anti-marocain donc, hein, qui défend les intérêts de la famille de Madame Marshall, de son fils unique, en vérité. Dès l'ouverture de l'audience, surprise, Omar Haddad s'exprime en arabe, traduit par un interprète, comme s'il ne parlait pas français, alors qu'il parle français avec son avocat. Joli coup de Maître Vergès, qui veut évidemment montrer que le premier interrogatoire d'Omar, qui a eu lieu sans interprète, est nul et non avenu. Dès le début du procès, il paraît assez clair, comme souvent, hein, que le président Armand Jean, qui a lu tout le dossier d'instruction, est convaincu de la culpabilité d'Omar Haddad. Mais une scène qui a lieu dans les premiers jours vient faire douter de son objectivité. La femme d'Omar Haddad, Latifa, vient à la barre pour parler de son mari. Pour en dire du bien, quoi. Pour dire qu'il est gentil, qu'il est doux. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche, mon mari. Et là, le président Jean du tac au tac. Et le jour de l'Aïd, hein? Et il égorgeait bien les moutons? Vergès, à ce moment-là, peut tout à fait provoquer un incident d'audience. Ce sont des propos racistes. Mais il ne dit rien. En revanche, il bondit quand l'avocat général interpelle l'accusé en disant « Omar, debout! Ah, monsieur l'avocat général! Hein? Pour un autre, vous auriez dit monsieur Dupont! Ou accusé, levez-vous! Omar Haddad n'est pas un chien !» Et ensuite, on revient sur l'ouverture de la porte, sur l'absence d'empreintes d'Omar Haddad sur les lieux de crime, sur l'absence de sang sur ses vêtements. Et on s'attendait à ce que Maître Vergès multiplie les oukases. Eh bien, il est étrangement calme. Il est assez peu combatif. On dirait qu'il laisse filer le procès. Il dira plus tard qu'il ne voulait pas énerver les jurés. Le 5e jour, au moment de lever l'audience pour le déjeuner, le président Jian annonce « Bien, cet après-midi, on amènera les portes. » Et à la reprise de l'après-midi, elles sont là, exposée dans la salle d'audience, et notamment la deuxième porte, très impressionnante, sur laquelle on voit écrit « Omar maté » et puis le doigt qui lâche, et la mort qui arrive. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait, c'est l'idée qui s'impose quand on la regarde, cette porte. Le président se tourne alors vers Haddad, blême. « Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Haddad ?»«
Je vois pas en quoi ça me concerne. »
dit l'interprète.
« Asseyez-vous, monsieur Haddad, on vous expliquera tout à l'heure. »
Toute la première semaine du procès, le banc de la presse est plein à craquer. Deux journalistes qui, pour la plupart d'entre eux, sont plutôt convaincus qu'Omar Haddad est innocent. Et puis la deuxième semaine, le toit d'un grand magasin s'écroule à Nice. Et d'un coup, les bancs de la presse se vident. C'est très intéressant parce que c'est la deuxième semaine que le procès bascule. L'accusation marque des points. Omar Haddad est en grande difficulté. Mais ça, les journalistes qui ne sont pas là ne le disent pas. Un décalage se crée. Dans son réquisitoire, l'avocat général n'a aucun doute.
Omar Haddad est coupable en raison d'une multitude d'indices et de témoignages. Mais il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu préméditation et que l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire. Je demande donc qu'il soit condamné à une peine de 17 à 20 années de réclusion criminelle.
Dans sa plaidoirie, Maître Vergès plaide l'acquittement. Ça n'est pas Madame Marshall qui a écrit « Omar m'a tué ». Omar Haddad n'avait aucun intérêt à tuer sa patronne. Son alibi n'a pas été suffisamment vérifié.
« Monsieur Haddad, levez-vous, je vous prie. Qu'avez-vous à dire à la cour avant qu'elle ne se retire ?»« C'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué Madame Marshall. Elle était comme une mère. »
Et cette fois-ci, en français. Le délibéré dure plus de 6 heures. Le verdict tombe à 18 heures.
La cour condamne M. Omar Haddad à une peine de réclusion criminelle de 18 années.
Sa femme Latifa s'évanouit, il faut l'évacuer vers l'hôpital. Et aux marches du palais, Maître Vergès, qui vient de perdre sur le terrain judiciaire, change de terrain.
Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
À partir de ce moment-là, l'affaire devient politique. Il reste la cassation. Et comme tous les avocats, Maître Vergès dit « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Mais un an plus tard, son pourvoi en cassation est rejeté. Pour Omar Haddad, il n'y a plus qu'un seul espoir. Une grâce du président de la République, Jacques Chirac. Rarissime depuis l'abolition de la peine de mort. Et là, énorme surprise. À l'issue d'une visite du roi du Maroc Hassan II en France, le président Chirac prononce une grâce partielle. Omar Haddad est dispensé d'exécuter la totalité de sa peine. Mais, sur le papier, il reste le meurtrier de Madame Marshall. Incroyable tambouille politique dont d'ailleurs on ne connaît pas le prix. Si, en échange, on libère un Français emprisonné au Maroc. Omar Haddad sort de prison 2 ans plus tard.
Omar Haddad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur et la foule des journalistes.
Je suis très très fatigué. Je veux dire merci à tout le monde, à tous les gens qui me soutiennent. Et merci à vous les journalistes. Et voilà. Merci.
À dater de ce moment-là, une autre bataille s'engage. Omar Haddad et ceux qui le défendent cherchent à obtenir une révision de sa condamnation pour meurtre. Selon l'article 622 du Code de procédure pénale, la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable de crime lorsqu'après une condamnation vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. À ce jour, aucune procédure de révision n'a été engagée. Voilà donc pour en quelque sorte la vérité judiciaire de cette affaire, les raisons pour lesquelles Omar Haddad a été condamné. Mais je vous le disais, tout un tas de gens sont convaincus de son innocence et à Maître Vergès a succédé Maître Novakovic qui est là avec moi au téléphone. Maître Novakovic, on va évoquer bien entendu les éléments que vous avez en main pour demander aujourd'hui une révision de la condamnation d'Omar Haddad. Mais avant d'aller sur ce terrain, je voudrais qu'on exploite le récit que je viens de faire et que vous me disiez, au fond, ce qui déjà, dans le dossier d'instruction, tel qu'il est actuellement aux archives départementales de Nice, quel est l'élément qui vous fait douter et qui nourrit votre combat ?
Il faut savoir que beaucoup d'éléments nourrissent mon combat dans ce dossier, puisqu'en fait, il n'y a rien, aucun élément matériel qui pourrait me permettre de considérer qu'il y a un doute concernant mon client. Donc pour moi, ce n'est pas un doute qu'il est innocent, c'est une certitude.
La porte fermée de l'intérieur, qui est l'argument de tous ceux qui sont certains de la culpabilité d'Omar Haddad, ne vous fait pas douter ?
Pas du tout, parce que des journalistes, dans le cadre du premier procès en révision qui a eu lieu en 99, justement se sont intéressés à cette affaire et ont mené une enquête. Ils ont justement fait une démonstration pour faire bloquer la porte de l'extérieur. Et cette démonstration a été positive.
Par quel moyen ? Parce que, pardon, mais comme c'est la clé de tout, moi j'aime bien savoir comment ça marche. On a donc une porte métallique qui, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est important à dire, vient buter sur le bas de la dernière marche. Ce qui complique beaucoup la tâche si l'on souhaite fermer cette porte, tirer ce lit, tirer cette poutrelle de l'extérieur. Comment ont-ils réussi à bloquer cette porte de l'extérieur ?
Eh bien, d'après ce qu'il m'a été indiqué, ces journalistes qui ont, justement, j'essaye de récupérer ce reportage qui est édifiant, en réalité, le lit, on le pose sur la porte, et en sortant, et il tombe au moment où on lâche la porte en sortant.
Et ça dure 20 minutes après pour pousser la porte ?
Oui, tout à fait, parce qu'ils ont réussi effectivement à démontrer qu'ils peuvent la bloquer de l'intérieur, juste avant de sortir.
J'ai des doutes. Mais je vous le dis tel quel, je pense que ça n'a jamais été démontré. Tout le monde a essayé, à commencer par votre confrère Baudou, Guidicelli. Ils ont tous essayé. Personne n'est vraiment arrivé à reconstituer une résistance aussi forte qu'elle a résisté à deux gendarmes poussant sur la porte pendant...
Alors justement, ce qui est démontré aussi, ce qui est démontré dans le dossier, ce qui est vu dans le dossier, il faut le savoir, c'est que en réalité, lorsqu'ils ont poussé la porte pour rentrer dans cette fameuse cave, eh bien, il faut savoir qu'il y avait, effectivement, il n'y avait pas autant de résistance que ce qui est indiqué au départ. En réalité, la porte est devenue résistante ensuite, par la suite. Au départ, ils pouvaient la pousser.
Ça n'est pas ce qui est écrit dans les procès-verbaux, mais c'est ce qu'on vous dit de l'intérieur de l'enquête.
Exactement. On s'est aperçu par rapport à toutes ces enquêtes journalistiques qu'en réalité, la porte s'ouvrait facilement et pas si durement comme on a pu l'indiquer dans le dossier. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, on a prétendu, au fur et à mesure de l'enquête qui s'est durcie, on a prétendu que c'était totalement une résistance absolue, ce qui était faux en réalité.
Vous êtes en train de dire que les gendarmes, l'enquête était dirigée par un capitaine de gendarmerie qui s'appelle le capitaine Sancy, ont sciemment tordu la réalité pour la faire correspondre à leurs convictions.
Alors je vais vous dire, avec mes 30 ans de métier, je pense qu'une enquête peut être dirigée de manière extrêmement orientée selon la position effectivement de l'enquêteur. Si un enquêteur est totalement impartial, il peut mener une enquête de façon formidable. On a des enquêteurs qui travaillent de façon extraordinaire. Mais malheureusement, vous pouvez aussi avoir des enquêteurs totalement braqués et persuadés de la culpabilité d'une personne et auquel cas, tout est orienté. Et ça, c'est humain, si vous voulez. On ne peut pas le reprocher, c'est humain.
Alors, à la suite de Maître Vergès, Maître Novakovic, vous menez donc ce combat de révision. Quel est aujourd'hui votre argument numéro 1 ?
Écoutez, déjà, je vais vous expliquer comment, effectivement, je me suis convaincue, effectivement, de l'innocence absolue de mon client. C'est lorsque j'ai appréhendé ce dossier. D'abord, j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun élément matériel. Et dans un second temps, j'ai pu également constater, grâce au premier procès de révision, que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout des choses, car sachez que la commission de révision de l'époque, en 1999, était convaincue elle-même de l'innocence de Omar Haddad par rapport aux éléments du dossier qui avaient été apportés. En d'autres termes, la commission de révision a dit à la cour de révision qu'elle estimait qu'il y avait suffisamment d'éléments pour considérer qu'il y avait un doute au sens de la loi et que le procès devait être révisé. La cour de révision, donc second degré de juridiction, a néanmoins estimé que les éléments n'étaient pas suffisants pour voir réviser le procès, même si en soi, il y avait peut-être un doute.
Le problème, c'est l'article 662 du Code de procédure pénale qui dit qu'il faut un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès.
Voilà.
Quel élément nouveau avez-vous aujourd'hui, inconnu au jour du procès ?
Alors, les éléments inconnus au jour du procès, ce sont des éléments extrêmement importants, à savoir les ADN. Parce que moi, l'histoire de la porte, savoir comment on l'a fermée ou pas fermée, barricadée ou pas barricadée, ce qui compte pour moi, ce sont des traces scientifiques, des preuves scientifiques, et j'en apporte.
Où trouve-t-on ces ADN, puisque je crois qu'il y en a quatre. Quatre.
Exactement.
Traces ADN sur quels objets ?
Exactement, Christophe. On a retrouvé, sur la scène de crime, quatre ADN mélangés au sang de la victime, dans, effectivement, sur la porte de la chaufferie et sur la porte de la cave à vin, ce qui est absolument essentiel.
Ce sont des ADN masculins ?
Alors, ce sont des ADN, enfin, il y a quatre ADN, dont deux au moins d'origine masculine, et il faut savoir que sur les quatre traces, vous avez une trace qui a matché avec le fichier national des empreintes génétiques, et un nom est sorti.
Oui.
Je tiens également à vous préciser que, bien sûr, de nouveau, on a comparé l'ADN d'Omar Haddad avec ses quatre ADN. S'il avait été l'auteur du crime, s'il avait été présent sur la scène du crime, on aurait forcément retrouvé son ADN. Or, pas du tout. Une fois de plus, il n'y avait pas l'ADN d'Omar Haddad. Ça n'a pas matché, ça n'a pas, effectivement, on n'a pas retrouvé une seule trace d'ADN d'Omar Haddad.
L'hypothèse que vous retenez, c'est que quelqu'un, tenant le doigt de Madame Marshall, lui ait fait écrire, probablement Madame Marshall étant déjà morte, lui a fait écrire « Omar m'a tué sur le mur en tenant sa main » et qu'à cette occasion, il ait laissé son ADN. C'est ça votre hypothèse ?
Non seulement c'était une hypothèse réelle, mais totalement crédible, en ce sens que vous avez vu...
Il est donc normal qu'il n'y ait pas l'ADN d'Omar, puisqu'évidemment, ça n'est pas Omar qui tient la main de Madame Marshall pour faire écrire « Omar m'a tué ».
Mais justement, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est qu'en fait, ça a été écrit avec la phalange, effectivement, de Madame Marshall. On voit qu'elle était totalement éventrée. On s'est servi, effectivement, de son sang pour inscrire les lettres de sang sur les portes. Mais il faut savoir, de façon extrêmement importante, que sur les quatre ADN, donc un a matché, et l'autre, un autre ADN extrêmement important, qui est l'ADN inconnu 3. Et cet ADN inconnu 3 est apparu caractérisé à 21 reprises sur et à proximité de plusieurs lettres ensanglantées au niveau de la trace de la main, seule et en mélange avec l'ADN de Madame Marshall. 8 fois avec son sang.
Si je vous objecte, pour le plaisir du débat, hein, maître, ça n'est pas mon opinion, je n'ai pas d'opinion, moi, vous le savez, en matière judiciaire, je ne connais que les faits. Si on part de l'hypothèse que cette porte a été manipulée pendant 25 ans par des huissiers, par des gendarmes, par des gens du palais de justice qui l'ont déplacée au local des scellés, alors il peut s'agir de l'ADN de tous ceux qui l'ont manipulée. Et celui qui l'a le plus manipulée a le plus de traces ADN sur la porte.
Alors, ça n'est pas vraisemblable sur l'ADN inconnu 3. En tout cas, dans la mesure où cet ADN inconnu 3, justement, apparaît justement sur les lettres ensanglantées elles-mêmes. Et au niveau des traces de la main de Madame Marshall, et surtout, on voit que c'est mélangé au sang de la victime. Et on les voit 21 reprises. Alors je veux bien qu'une personne éventuellement ait pu approcher ces lettres de sang, mais là, à 21 reprises, qui se trouvent à proximité des lettres qui ont été écrites. Là, on n'est plus dans le hasard, on n'est plus dans le hasard d'une personne qui serait passée à côté, mais là, ça concerne véritablement le coupable, l'auteur du crime.
Vous dites qu'un des ADN a matché avec quelqu'un qui est inscrit au fichier OFNAEG, au fichier des empreintes génétiques,
tout
qui recense les personnes qui ont été à la fois soupçonnées et condamnées dans des affaires pénales. Le procureur de la République de Nice dit que ça n'est pas vrai, qu'on a cru que ça avait matché et que, vérification faite, ça n'a pas matché.
Eh bien, c'est complètement faux. Et je vais même vous dire, j'ai fait un recours, j'ai formé un recours auprès de Monsieur le procureur général et mon dossier a été réouvert. Parce qu'en fait, Monsieur Prêt a stoppé toute diligence car l'expert n'a pas du tout conclu qu'il n'y avait pas de rapprochement entre cette trace et le nom qui est sorti. Il a simplement précisé, cet expert, qu'il fallait des analyses complémentaires pour statuer définitivement sur le rapprochement. Donc, si vous voulez...
Et le procureur les a refusés.
L'expert a précisé qu'il fallait un nouveau prélèvement sur la personne dont le nom est sorti. Et le procureur de la République de Nice, au lieu d'indiquer, bah, écoutez, on va continuer effectivement l'expertise, eh bien, il a stoppé ses diligences. Contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse, il est impossible d'exclure de manière scientifique et formelle le rapprochement entre l'empreinte et l'empreinte génétique de cette personne dont le nom est sorti. Et j'en veux pour preuve également un expert, un autre expert près la cour qui justement a effectué pour moi un rapport qui démontre tout ce que je viens de vous indiquer. Donc de manière scientifique et formelle, on ne peut absolument pas indiquer qu'il ne s'agirait pas de la personne dont le nom est sorti. Parce que ça peut être cette personne-là ou alors quelqu'un en parentèle. Parentèle, ça veut dire quelqu'un qui pourrait être de sa famille. Vous savez qu'on a sorti l'affaire du violeur du Sénart comme ça. Cette personne qui, justement, a été retrouvée grâce à un ADN qui appartenait à son frère. Donc, toutes ces recherches doivent être effectuées. Et c'est très important également, au niveau de l'ADN, l'autre ADN qui se retrouve mélangé aux traces, effectivement, qui ont été faites de la main de Madame Marshall. Ces traces Omar m'a tué ont été faites avec un ADN qu'on ne connaît pas, inconnu, qui n'a pas matché avec le FNAG. Et donc, il est très important aujourd'hui, c'est ce que j'entends obtenir devant M. le procureur général, c'est qu'on fasse des comparaisons avec tous les intervenants du dossier, avec, bien sûr, toutes les personnes suspects, familiers, témoins, et pourquoi pas des proches de ceux qui sont décédés, parce qu'on sait très bien que, par exemple, l'amant de la femme de ménage, qui lui-même avait un casier, qui lui-même avait été condamné pour meurtre, est aujourd'hui décédé. Mais peut-être que par des ADN des personnes qui appartiennent à sa famille, on pourra peut-être retrouver des traces de cet homme. On ne sait pas si c'est lui ou pas. En tout cas, il faut le savoir. Mais dans tous les cas, je vais vous dire, Christophe, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir que, premièrement, on n'a pas de traces ADN d'Omar Haddad dans la cave. Parce que vous disiez tout à l'heure vous-même, des traces d'herbe, on en aurait trouvé. Avec l'ADN d'aujourd'hui, les méthodes d'aujourd'hui, les méthodes scientifiques d'aujourd'hui, on aurait retrouvé son ADN. C'est obligatoire. Obligatoire. Quelque part, que ce soit sur le chevron, que ce soit sur les portes, on aurait retrouvé son ADN, parce qu'à l'époque, on n'y pensait pas à l'ADN. Donc Omar Haddad ne se serait pas dit, je vais mettre des gants pour ne pas laisser ma trace, je vais mettre des protections sur mes chaussures pour qu'on ne voit pas les traces. Donc bien entendu, s'il avait été le meurtrier, on aurait eu sa trace. Donc de toute façon, au nom de la justice, parce que la justice, si vous voulez, pour moi, c'est extrêmement important, elle doit être juste. Et si elle est juste, eh bien, on doit savoir à qui appartiennent ces ADN. On ne peut pas les laisser dans la nature sans se dire à qui ça appartient. Peut-être des enquêteurs, je n'y crois pas. Mais pourquoi pas? Et à ce moment-là, sachons-le, il faut le savoir. On ne peut pas clôturer un dossier en laissant 4 ADN, dont 2 qui sont complets et à plusieurs endroits des portes. On ne peut pas les laisser en se disant « l'enquête est clôturée », alors que vous avez un homme qui se bat depuis toujours pour dire « je suis innocent ». On a un dossier qui est vide contre lui. On a un dossier où il n'y a rien qui puisse l'accuser. On ne peut pas laisser ce dossier vide, fermé.
À ce jour, le procureur de la République de Nice vous a répondu qu'il n'y aurait pas d'investigation supplémentaire, on est d'accord.
Mais peu m'importe ce qu'il pense, puisque je suis devant le procureur général qui a fait droit à ma demande, qui a réouvert le dossier. Qui lui a sommé de faire les demandes que j'ai effectuées depuis longue date.
Aucune comparaison entre les ADN retrouvés et les protagonistes du dossier n'est prévue. Si ?
Ah ben bien sûr, tout va être... L'affaire, sachez que c'est un scoop dont vous bénéficiez, c'est que bien sûr, Aujourd'hui, le dossier non seulement est réouvert, mais le nécessaire sera fait, en ce sens que, de toute façon, les preuves scientifiques sont là, qui démontrent qu'on doit savoir qui appartiennent ces ADN, et il y aura des comparaisons qui seront faites.
Je vous remercie infiniment, Sylvie Novakovic.
Mais je vous en prie.
Nouvelle avocate de... Enfin, nouvelle, pas si nouveau que ça,
depuis
d'ailleurs.
Depuis 2008.
Oui, c'est ça, ça fait un petit moment maintenant, 9 ans. Celle qui a succédé, en tout cas, à Maître Vergès dans ce combat, en faveur de la révision de la condamnation d'Omar Haddad.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.